sous le paysage. Dans les collections du musée Quai Branly Jacques Chirac, avec Magali Mélandry, Aurélien Gabory, Constance de Montbrison, Steve Bourget. Enregistré le 23 septembre 2024.
Donc on se trouve au musée du Quai Branly Jacques Chirac, dans le début du parcours de l'exposition permanente, qui s'ouvre en fait sur le monde océanien.
Magali Mélandry, responsable des collections Océanie.
L'Océanie, c'est une partie du monde qui se situe dans le sud de l'océan Pacifique. On traverse complètement ce sud de l'océan Pacifique, depuis l'Australie jusqu'à l'île de Pâques. Je voudrais juste vous aborder avec vous une zone et un fleuve très emblématique du monde océanien, qui est le fleuve Sepik, en Nouvelle-Guinée. Cette île de la Nouvelle-Guinée, elle borde tout le nord de l'Australie, du grand continent australien. C'est une île immense, c'est la deuxième plus grande île du monde, après le Groenland et avant Bornéo. Elle est traversée par une immense chaîne montagneuse, 4000-5000 mètres d'altitude, et elle a une histoire longue de peuplement, puisqu'elle est... Elle va être traversée par des premières populations après la dernière glaciation, dernier épisode glaciaire, glaciation de Würm, et grosso modo vers moins 50 000, on a des premières populations qui vont arriver du continent asiatique, de cet ensemble qu'on appelle Sunda à l'époque, sur un autre grand continent qui englobe à l'époque l'Australie, cette île de la Nouvelle-Guinée et la Tasmanie tout au sud. Donc vers moins 50 000, on a des premiers Homo sapiens qui se répandent d'abord sur la Nouvelle-Guinée avant d'arriver vers l'Australie. Donc on est sur une occupation longue et qui s'est ensuite enrichie d'autres vagues de population, d'une séparation évidemment de l'île de Nouvelle-Guinée elle-même. Et ce fleuve Sepik, il est assez immense aussi. Il s'écoule le long de la côte nord de l'île de Nouvelle-Guinée. Il fait à peu près 1000 km, même s'il ne fait que 500 km à vol d'oiseau. Mais il est tellement fait de méandres et de qu'il sculpte complètement une vaste plaine marécageuse qui est un des grands centres, cette région du fleuve Sepik, un des très grands centres de production artistique en Nouvelle-Guinée. C'est une multitude de groupes qui s'égrènent depuis l'embouchure jusqu'à presque la haute région du fleuve. C'est à peu près 90 langues différentes qui vont émailler toutes ces berges de fleuve et quasiment autant d'expressions artistiques. Il y a un groupe en particulier dont je voudrais vous parler, qui sont un groupe qu'on appelle les Yatmoul, qui ont été très étudiés dans l'histoire de l'ethnographie, qui ont une production extrêmement riche, parce que eux ont et manifestent en tout cas le rapport à cet environnement à travers différents éléments sculptés qu'ils vont réaliser et qui vont même façonner et donner l'identité d'un village, des villages qui sont installés le long des berges. Les gens, il y a toute une organisation de l'habitat. Organisation déjà très pratique, c'est qu'une partie de l'année, eh bien, c'est la saison des hautes eaux et que le fleuve déborde et que les gens vont circuler en pirogue, que les maisons nécessairement sont sur pilotis pour qu'on puisse habiter à l'étage, et voire même les groupes remontent vers les collines pour échapper à ce grand moment des grandes eaux et des crues qui sont liées à cette saison des pluies et qui rythment quand même beaucoup la vie des gens qui organisent donc notamment, c'est une des sociétés qui sont horticoles, sont des horticulteurs, ils cultivent des jardins encore aujourd'hui, même si évidemment la colonisation depuis le début du XXe siècle et les installations multinationales et internationales qui sont une réalité aujourd'hui en Nouvelle-Guinée font qu'il y a des commerces et une administration sur place, mais on continue d'aller dans ces jardins, on continue de marcher des heures loin des villages pour se rendre sur ces jardins où on cultive des tubercules d'igname, en tout cas toute une économie vivrière qui est encore extrêmement importante. Le fleuve lui-même est un fleuve nourricier, on y pêche beaucoup, mais il est aussi un monde vivant en soi, à l'égal aussi de certaines sociétés dans les continents américains. Tout votre environnement est un environnement créé. Il est il est une création d'entités, de différentes entités naturelles, voire surnaturelles, avec lesquelles chacun des hommes et des femmes dans ces villages vont entretenir une alliance spécifique, un rapport très spécifique. C'est d'abord un rapport clanique, véritablement. Je vais, en tant que femme ou homme, être rattachée à ce clan du palmier sagoutier essentiel aussi dans les forêts qui sont aux alentours et qui sont, dont on extrait la moelle pour ensuite la transformer en une fécule qui va devenir la base de l'alimentation essentielle pour cette région du Sépik. Donc tout ce travail, ce rapport au palmier sagoutier, il va être à la fois de vous apporter de la nourriture, mais aussi d'avoir cette relation très privilégiée, puisque même si entre lui et moi, on n'a pas du tout la même enveloppe, on a une extériorité différente, on a une similitude d'intériorité. Et c'est ce qui définit en quelque sorte l'animisme tel qu'il existe en Nouvelle-Guinée, c'est ce rapport d'un être à un autre, d'un vivant à un autre, même si on a des enveloppes extérieures complètement différentes. Mais néanmoins, je vais protéger cet autre, qu'il s'agit en l'occurrence de palmier sagoutier. Je vais surtout, moi, l'exploiter de manière privilégiée et les autres devront me demander l'autorisation. Donc, j'ai des droits aussi sur cette entité. Et elle me renvoie des choses. Elle m'aide à me nourrir, elle me donne du pouvoir. Donc, cette interrelation est extrêmement importante. Elle se lie aussi, donc ces entités, ça peut être un rocher, une plante, l'arc-en-ciel, un vent. Et puis, il y a des grandes entités fondatrices importantes qui sont des créateurs véritablement du monde. Et dans cette région du Sépik et dans ce fleuve lui-même, c'est un des entités majeures, c'est le crocodile. Alors, ils peuvent en élever des petits, ils font des petits bassins, on les garde, mais sinon, pouvoir chasser et ramener au village un grand crocodile, c'est quand même une fierté. Et en général, le moment aussi d'une cérémonie ou de temps d'échange assez particulier. Ce crocodile, il est fondateur et créateur, puisque chez les Yatmoul, en l'occurrence, il a créé le monde. Ce crocodile fondateur, avec sa queue, il a agité l'eau du fleuve, il a fait remonter les alluvions, et tout ça est devenu la terre qui est devenue le territoire Yatmoul à part entière. Donc, il porte quelque sorte la terre où il l'a créée. Et ensuite, c'est selon les mythes et en les simplifiant un peu, mais il est aussi, c'est de sa gueule que sortent les premiers êtres vivants, les premiers êtres humains. À ce moment-là, ils ont un sexe indifférencié, ils ne sont ni homme ni femme. Et d'autres mythes viendront créer ensuite le genre, mais son corps lui-même est un acte créateur. Et il est une référence essentielle, ou en tout cas telle que l'anthropologie a pu nous la restituer, ou telle qu'on peut en discuter aussi avec les gens sur place. Et l'exposition permanente du musée, on a quelques objets qui vont manifester l'importance de cette entité sous des formes différentes. Donc, pour vous prendre un exemple, on a notamment sur le premier podium du parcours Océanie, il y a un très grand poteau qui fait bien 5 mètres de haut, qui est taillé dans un tronc d'arbre, bois extrêmement solide, puisque c'est un bois de soutien, c'est un poteau de soutien des toitures, des maisons monumentales qui structurent un village chez les Yatmoul. Parce que cette maison, on l'appelle la maison des hommes. En langue pidgin, ça s'appelle House Tambaran. Tambaran, ce sont les esprits ou les ancêtres. Le pidgin, c'est cette langue véhiculaire qui date du temps de la colonisation, au tournant 19e, 20e, et qui est un mélange à la fois d'allemand, d'anglais et de différents mélanges de langues locales, puisque la Nouvelle-Guinée, dans sa totalité, c'est plus de 700 langues. La région du Sépik, c'est 90 langues. Donc les gens d'un groupe à un autre, déjà la question de la communication d'un groupe à un autre, alors que c'est des gens qui sont en échange énormément. Et donc c'est pour l'Occident a trouvé cette langue véhiculaire, et c'est une langue qui est extrêmement parlée, qui est la langue véhiculaire très largement utilisé aujourd'hui et toujours indispensable, en plus des langues, même s'il y a évidemment des problématiques de transmission. Donc ce poteau, il vient soutenir la charpente, une charpente à double pente immense de ces maisons. Donc c'est une maison des hommes, c'est 20 mètres de long, 8 mètres de haut, à peu près 8-10 mètres, 8 mètres de large. C'est une structure monumentale et dont toutes les ressources vont être de l'ordre du végétal. Donc ces poteaux, c'est des, plusieurs séries de poteaux qui vont permettre de soutenir la toiture et de ménager en fait aux deux tiers supérieurs de la sculpture un plancher qui permettra d'accéder à l'étage de cette maison. Puisque je l'indiquais, il y a un temps de l'année où l'eau monte et il s'agit bien de vivre plutôt à l'étage. Et puis même cette maison cérémonielle, elle se fait qu'il y ait un rez-de-chaussée, un étage, est tout à fait signifiant. Le rez-de-chaussée, c'est l'espace public, c'est là où les hommes se réunissent. On l'appelle aussi maison des hommes, puisque c'est vraiment un lieu qui reflète une société en Nouvelle-Guinée extrêmement clivée entre le monde masculin et féminin, et où seuls les hommes se réunissent, et les hommes initiés, c'est-à-dire qui ont franchi un certain nombre d'étapes initiatiques. Ils sont pleinement hommes, ils sont notamment les hommes forts du clan, c'est-à-dire ce qu'on appelle les big men. Et c'est le lieu où on va prendre les grandes décisions. C'est une assemblée, c'est aussi un lieu où ils dorment, c'est un lieu où on discute, c'est un lieu où on va se réunir de manière très protocolaire, organisée au rez-de-chaussée. On s'assoit selon la structure elle-même des clans qui sont séparés en moitié et le dialogue et l'échange est également extrêmement codifié. Et puis à l'étage de cette maison, qui lui est complètement fermée, on va placer là les objets qui vont être liés à cette forme de lien et d'alliance aux entités surnaturelles, qui sont des objets qu'on dit secrets et sacrés, que les non-initiés et les femmes ne doivent pas voir. Ça va être différents crochets sculptés de figures qui renvoient à certains récits de fondation, de création ou des récits liés au clan, à l'identité du clan, puisque toute cette maison, toute son iconographie va raconter cette histoire du clan. Elle est aussi un peu leur livre du monde. Et pour revenir au crocodile, il va être, pour celle-ci qui a été prélevée dans le village d'Angerman dans les années 30, il est en fait sculpté en différentes parties d'une iconographie qui est intimement rattachée à l'identité du clan qui a fait réaliser cette maison monumentale. On peut y lire, et particulièrement au bas de la sculpture, c'est assez foisonnant, on a une figure humaine, la tête un peu projetée vers l'avant, qui porte des scarifications. Elle a des scarifications sur l'épaule, les épaules, autour du ventre, qui est un indice de son statut d'ancestralité, qui est une forme de code aussi d'identification. On va trouver ce fameux crocodile de manière très figurative, très lisible. Un oiseau également qui se déploie, la queue court le long du poteau. Et puis on a un serpent également, et un poisson silure, puisque les silures sont donc cet immense poisson qu'on trouve là aussi dans le fleuve, qui sont pêchés, qui peuvent l'être, mais qui sont aussi des esprits qu'on appelle Wagen et qui sont extrêmement puissants, qui sont vraiment des entités qu'on va appeler, qui a là aussi un rapport extrêmement important, et des formes de métamorphose aussi de ces esprits Wagen qui peuvent être sous ces formes de silures, mais qui vont prendre aussi d'autres enveloppes à un moment donné. Donc c'est aussi ce qui est assez fascinant dans cet art du sépik, c'est toute l'hybridation aussi et la métamorphose et la transformation qui fait qu'au fur et à mesure des récits, certaines entités vont prendre des enveloppes différentes ou on va avoir des entités hybrides dans les récits qui seront un homme casoar, un aigle pêcheur aux écailles de crocodile et la plasticité de la sculpture le met complètement en image, qu'il s'agisse de ces poteaux, des objets secrets et sacrés qui sont à l'étage de la maison, des grands tambours aussi à fente qui sont placés au rez-de-chaussée de la maison. On est là sur un travail d'artiste, en tout cas de spécialiste véritablement. Ils ont un statut spécifique dans la société. On leur commandite une sculpture parce qu'on sait qu'ils vont être en mesure à la fois de mobiliser un répertoire iconographique parce qu'ils ont une très grande connaissance des récits, qu'ils sont habiles de leurs mains. Ils sont reconnus aussi dans une forme d'esthétique dans laquelle se retrouve la communauté. On est dans un mix entre la capacité à reproduire des canons de représentation qui sont attendus par le groupe, par le clan, mais aussi on va lui reconnaître une forme de créativité et d'individualité dans un style qui fait que même si on peut penser qu'il y a une forme de rigidité dans le système où on peut avoir ces canons qui doivent se répéter, il y a quand même toujours une évolution et qui fait qu'on a aussi un répertoire de création qui est assez stimulé et stimulant quand on regarde l'art du Sépik, et qui est sans doute un mélange entre cette capacité à reproduire un canon, mais aussi à être inspiré un petit peu différemment. Ce qui est aussi caractéristique de cette grande sculpture, c'est son immense visage, avec ce regard très amplifié, qui est là vraiment un travail juste de perspective, qui fait comme on voit la sculpture d'en bas, il y a une forme d'émancipation, de grand format du visage pour une vue en contre-plongée, et qui est importante de travailler ce regard lointain vis-à-vis de la figure. Et entre les deux, entre cette base très figurative et ce visage, on a un réseau d'ondulations, de gravés, de lignes ondulées, gravées en moyen relief dans le bois. C'est un bois très dur, c'est un bois qui est très solide et un bois dur, puisqu'il doit supporter l'immersion dans l'eau une partie de l'année. Et donc, il y a un niveau de résistance aussi, on le choisit aussi. On ne choisit pas n'importe quel arbre, d'autant qu'on peut avoir une relation clanique spécifique. Donc, tout ce travail-là aussi, le travail de sculpture lui-même est accompagné d'énormément de protocoles, d'interdits. On ne vit plus on vit pas forcément auprès de sa femme pendant ce temps-là. Il y a toujours cette relation homme-femme qui se joue ici, d'interdits, de relations, particulièrement quand les femmes ont leurs règles. Et pour revenir à ces lignes ondulées, elles sont une autre façon d'évoquer le paysage, d'évoquer ce fleuve Sépik, puisqu'elles sont une matérialisation des ondulations qu'on peut observer à la surface du fleuve, particulièrement quand les crocodiles passent de la surface aux profondeurs, et ça crée à la surface du fleuve, à la surface de l'eau, ces formes de vaguelettes ou d'ondulations, tourbillons sur l'eau. Et c'est une façon, quand un yatmoul observe ce phénomène, c'est une façon de comprendre que cet ancêtre crocodile, que cette entité-là est présente. Il n'y a donc pas de temps passé et de temps présent. C'est-à-dire que ces entités, elles vous accompagnent, elles sont là, elles vont se manifester. En fait, c'est pour ça qu'il y a aussi toute cette attention portée à ce qui vous environne quand vous êtes... D'abord parce que c'est un environnement où il faut faire attention à ce qui vous entoure. Parce qu'on peut être vite piégé par cet environnement boueux, glissant, différents épisodes qui nécessitent d'être attentif à ce qui vous entoure, parce qu'il y a des crocodiles justement aussi, et que c'est pas forcément un ami dans une première rencontre. Mais c'est intéressant dans l'iconographie yatmoul de voir une façon de représenter ce fleuve, mais surtout d'incarner une ancestralité, une entité fondatrice, dans un vocabulaire formel qui, pour un œil non initié, est imperceptible. C'est justement tout l'intérêt de l'initiation, de ce temps d'apprentissage qu'ont les jeunes garçons et les jeunes filles par ailleurs, puisque c'est là qu'on va leur donner aussi des clés de lecture. C'est là où on apprend tous les noms de son clan et donc tous les noms spécifiques. Quand je vous parle des poissons silures, ils ont un nom spécifique, cet esprit vacane dans le clan. Dans un clan, il aura un nom en particulier. Cet apprentissage est extrêmement important pour comprendre qui on est, comment on se place dans la société et comment je vais me comporter avec autrui. Aussi codifier les alliances avec d'autres moitiés, d'autres clans. Donc cet apprentissage-là, il est essentiel dans la construction de l'individu, à la fois dans son état d'homme ou de femme, mais aussi de connaissance de sa propre histoire pour pouvoir ensuite agir dans la société en connaissant ses règles et cette histoire.
Toute l'Afrique n'est pas une zone aride, mais on a des zones qui sont très humides. Alors,
Aurélien Gabory, responsable des collections Afrique.
Ici, on se trouve devant des objets qui proviennent du delta du Niger. Donc à l'endroit où le Niger se jette dans le golfe de Guinée. Et donc c'est un grand fleuve avec ce delta très impressionnant avec ses divisions de cours d'eau. C'est une zone de marécage, c'est une zone avec des étangs, des petits lacs, etc. Donc très très humide, et ça se retrouve ce côté du monde de l'eau dans les productions plastiques des cultures environnantes. Et on est en particulier chez les Igbo et les Ijo, dont je vais vous décrire plusieurs masques. puisque ce sont des masques. Hein. Donc là, on a une présentation assez, assez spectaculaire de grands masques horizontaux, très colorés, avec des formes multiples. Et puis, en fait, on peut aller jusqu'au Cameroun avec une proue de pirogue, donc qui évoque aussi, bien sûr, le monde de l'eau, qui provient des Douala du Cameroun. Donc, pour ce qui est du delta du Niger, on a cet environnement très aquatique dans lequel les populations vivent au quotidien. Et il y a des esprits de l'eau qui sont présents à travers des représentations qui évoqueraient des animaux, qui ne sont pas des véritables animaux comme on peut les voir dans l'environnement, mais des esprits qui prennent cette forme d'animaux et parfois de façon extrêmement abstraite. Alors il y a un très grand masque, très horizontal, très allongé, très coloré, avec plein d'éléments qui sortent de cette... de ce masque central hein, qui est porté, on voit qu'il y a une espèce de petite coupe au revers du masque, à l'intérieur du masque, qui permet de le fixer en équilibre sur la tête. Donc c'est un masque cimier, mais qui est horizontal et qui représente un requin. Alors le seul élément, à part la forme allongée, qui évoque le requin, c'est un aileron qui sort au milieu du masque, un aileron triangulaire avec une pointe noire, alors qu'il y a beaucoup d'autres éléments qui sont fixés sur le masque, qui n'évoquent pas du tout un animal, bien sûr, et le masque requin. Donc, alors ça peut surprendre, puisque les requins sont plutôt des animaux de la mer, mais en fait, il arrive que les requins remontent dans l'estuaire, remontent les bras du fleuve pour aller chercher à manger et bien sûr, parfois attaquer des pêcheurs qui sont dans le coin. Donc, il y a vraiment cette idée de se protéger de l'agressivité du requin à travers la réalisation d'un masque et la sortie d'un masque au moment des festivités qui va neutraliser ou en tout cas. Plutôt faire en sorte que la férocité du requin ne soit pas là et même éventuellement arriver à le mettre de son côté. Il y a un autre masque qui est alors pour le coup beaucoup plus réaliste qui est présent dans cette vitrine, qui est un masque Ijo, des populations Ijo, donc de cette même région du delta du Niger, et qui est un masque qui représente une antilope. Alors là aussi on peut être surpris en disant une antilope... C'est beaucoup plus lié dans l'environnement de la savane, des prairies, éventuellement de la forêt, mais pas de l'eau. Et en fait, si, c'est une petite antilope qui vit dans les marais, donc qui est présente dans cet univers très humide, des marécages, des étangs et des cours d'eau, et qui est identifiée par ce masque, qui est aussi un esprit de la forêt, donc alors, pas aussi agressif que le requin, mais tout esprit peut devenir agressif à partir du moment où il considère qu'il est dérangé ou gêné par la présence des humains. Et en revanche, tous les masques, quels qu'ils soient, sont toujours la présence de ces esprits au sein de la communauté humaine. Donc d'une certaine façon, il y a un changement d'environnement. Les humains sont dans la nature accompagnés d'esprits qui sont là, pour le coup, les maîtres de cet espace. Et en revanche, avec les masques, ce sont les esprits qui sont invités à participer au monde et à la communauté humaine et qui sont plutôt bienveillants, plutôt sous contrôle. Ce qui est très important, bien sûr, dans cette relation entre les humains et l'environnement, même si c'est aussi un environnement mental. Et puis, il y a un autre masque qui est assez surprenant, qui est une sorte de là aussi on voit qu'il est porté comme un cimier et c'est une sorte de caisse en bois très colorée avec des volutes. Alors là aussi c'est un masque qui n'est pas fait d'une seule en un seul morceau hein. On voit qu'il y a des volutes, qu'il y a des spirales, des formes en crochet qui sortent de ce masque, des choses assez incompréhensibles. Et en fait, il faut le voir sous un certain angle, parce que là, il est complètement abstrait, c'est quelque chose d'assez joyeux d'ailleurs, très coloré, très, très dynamique, très vif, mais il faut le voir sous un certain angle pour comprendre qu'il s'agit d'un masque d'hippopotame. Enfin, un masque qui représente un hippopotame. Et là aussi, on est dans le domaine de aquatique. Et les hippopotames sont des animaux qui sont très dangereux, hein, même s'ils ont un peu un aspect de grosse vache qui va manger de l'herbe. En fait, ils peuvent être très agressifs. Ils peuvent même apparemment manger de la viande. Et ils sont dans leur environnement aquatique. Ce sont aussi des animaux qui sont très impressionnants et qu'il faut absolument respecter et auxquels il faut faire attention parce qu'ils peuvent arriver sous l'embarcation ou même au bord de l'eau et agresser les humains qui sont en train de travailler ou qui sont juste présents à cet endroit-là. Donc l'hippopotame est aussi un animal dangereux qu'il faut en fait arriver à maîtriser dans cet environnement-là. Alors ce qui est étonnant, c'est qu'on a aussi d'autres pièces qui sont reliées au monde de l'eau. Alors il y a un autre masque hippopotame Igbo, complètement différent dans une autre vitrine, qui est plutôt rouge, avec un hippopotame en fait qu'il faut voir là aussi quand il se déplace de façon plus horizontale que la façon dont il est présenté. Et puis on a une figure féminine, Ekotame, qui est une figure qui est sculptée dans du bois, recouverte de peinture blanche et noire avec un petit pagne en tricot. Et cette sculpture fait allusion à une divinité aquatique, mais qui est liée aussi au monde de la maladie, et en particulier de la maladie des enfants. Donc est-ce que c'est effectivement cet environnement très humide qui peut faire en sorte que des bactéries, des microbes se développent milieu humide et très chaud, donc de façon plus facile. En tout cas, dans cette région, on a beaucoup de productions qui sont destinées à protéger de la maladie, et en particulier de la maladie, des maladies infantiles. Voilà, donc en fait, cet environnement humide est là aussi complètement nécessaire pour la survie des populations, mais peut aussi devenir un endroit dangereux. Donc il faut aussi imaginer, en fonction des saisons, tous ces paysages qui sont recouverts de brumes, de sortes d'écharpes de brouillard. Et c'est toujours un élément extrêmement fantasmagorique, puisqu'en fait, on ne sait pas ce qu'il y a derrière, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Ça arrive, ça disparaît, et c'est tout un monde, y compris un monde de génie, d'esprit, de l'environnement qui peut se développer dans cet espace-là. Tous les masques appartiennent effectivement à des sociétés qui gèrent leur sortie, la façon dont ils vont danser, la musique qui va les accompagner, le costume qui va dissimuler le porteur du masque. Et donc, par exemple, on a des masques qui appartiennent à la même société. Par exemple, le masque hippopotame dont je vous ai parlé et le masque requin, ils appartiennent tous deux à la société Egbukere, mais on a des masques qui sont très différents. Par exemple, les deux masques hippopotames sont très différents. Donc en fait, et c'est assez observé pour les Igbo donc cette partie du Nigeria, mais pour d'autres cultures aussi. Il y a des choses qui sont très très très, protocolaires, très fixées, très dans la marche à suivre pour certaines cultures et dans certains rites très très précis. Mais là, c'est plutôt des festivités où tout le monde peut participer, et les masques sont des créations qui montrent l'inventivité, la liberté de l'artiste. Et puis surtout, c'est des choses qui sont assez joyeuses, et ça se voit à travers les masques, dans les couleurs, etc. C'est pas des masques qui peuvent faire peur ou qui sont impressionnants. Oui, ce sont des animaux impressionnants, mais c'est le côté, ils sont fêtés par les humains, ils sont honorés par les humains pour en fait être du côté des humains. Et c'est vrai qu'à travers ces créations-là, on voit une certaine liberté de création, un dynamisme qui va se retrouver sur d'autres masques sous forme d'intégration de thématiques. Alors de l'environnement urbain, par exemple, on va avoir des masques avec des motos, des voitures, des téléphones, etc. Donc des choses modernes. Tout n'est pas figé depuis des siècles. Il y a vraiment une idée de renouveler les formes en amusant aussi la population. Et ça, c'est vraiment dans les fêtes où tout le monde peut approcher, participer. Alors, pas approcher trop près du masque quand même, c'est quand même un esprit, mais enfin le voir, etc. Et il va défiler au sein de l'environnement du village ou de la ville, mais il va évoquer ces esprits de la nature qui sont donc dans la ville. Mais voilà, il y a vraiment cette idée de couleur, de fête, etc. Alors que d'autres masques qui, on n'est pas du tout dans ce contexte-là, mais qui doivent faire régner la justice, l'ordre, etc., sont des formes qui sont beaucoup plus conservées au fil des siècles et qui sont beaucoup plus agressifs. Et là, la population n'est pas du tout invitée à les suivre, au contraire, à les fuir, parce qu'on peut se prendre un coup de raquette, un coup de bâton, un coup d'objet sur la tête si on est surpris par le masque. Et autrefois, en fait, c'était une manière d'exécuter un certain nombre de fauteurs de troubles. Alors, je n'ai pas parlé de la proue, mais là aussi, dans cette proue de pirogue, il y a une sorte d'inventivité très recherchée entre tous ces animaux dont certains qui ont l'air assez fantastiques, d'oiseaux, de serpents qui attrapent des singes et qui sont mêlés dans des formes très, très sinueuses et qui évoquent là aussi des animaux qui sont liés au monde de l'eau.
Cet épisode est soutenu par l'École des Beaux-Arts de Nantes-Saint-Nazaire, Atelier de Sèvres, Nantes Université et l'association Fieldwork Marfa.